Alors, bonjour tout le monde. Hier, on a passé une journée très chargée qui finit très tard. Donc, j'imagine que tout le monde est crevé. Aujourd'hui, on a aussi un programme très chargé aussi. Parce que les discours de Lionel Richard sur le Bauhaus et l'aspect de modernisme qui terminait les séances d'hier, je trouvais qu'il était très très fort. C'est-à-dire comment on traite une école d'architecture et d'art, pas strictement d'un aspect formel, mais aussi l'engagement social, on peut dire de Bauhaus, la synthèse entre la forme et l'engagement social. Alors on a fini très très tard et aujourd'hui on commence avec une journée également chargée. Et alors on va faire quelques textes d'introduction avec, j'ai l'honneur de voir à mes côtés Laurence Angèle, qui préside, comme vous savez, la Bibliothèque nationale. Hier, on a parlé longuement avec Joël de la Bibliothèque nationale. Et après, on monte un film entier, Anna Arabia, qui est un film qui est tourné par un plan séquence sans coupure de 81 minutes en continuité. Que pendant les différentes leçons, on a parlé de comment on décrit le Moyen-Orient par des stratégies aussi formelles, pas strictement par les continus, c'est-à-dire qu'on installe une bloc temporel en continuité pour faire un peu opposition dans les façons très coupées des médias qu'il présente le Moyen-Orient, qui aide à intoxiquer des perceptions du Moyen-Orient. Alors, en Arabie, c'est une démarche qui accumule les contradictions d'un seul plan séquence. Je vous conseille de voir le film, 80 minutes. Et après, il y a une pause, on va prendre un peu de café, oui, qui est nécessaire pour tout le monde. Pierre-Marc de Biasi va nous parler après, Uziel Yada. Et après, Keren Mok, qui, entre autres, c'est aussi ma fille. Alors, je vous conseille, quelqu'un intelligent de la famille. Et Louis Sklavis, il va nous jouer. Et après, il y a des ceintures iraniens, par un très bon musicien iranien, qui était prévu par le spectacle qu'on vient de faire en Amérique. Mais il était refusé de visa par le régime Trump. Mais il est très très doué, il va nous jouer des ceintures. Et après, il y a toute une série d'interventions sur le cinéma des autres, c'est-à-dire les cinéastes qui sont faits opposition à différents régimes. Alors on commence par India, Ashish qui vient de Bangalore, qui va nous parler d'un grand cinéaste indien, Ritvik Ghatak, qui avait certains conflits avec Nero. Mais qui est un très très grand cinéaste. Et mon élève de Columbia, Wale, qui va parler de cinéma colonial en Afrique. Et Richard Peña, qui a présidé pendant 25 ans le Festival de New York, le Film Festival de New York, il est professeur à Columbia également, qui va venir nous présenter les questions de cinéma nouveau et surtout des différents membres de ce mouvement de cinéma nouveau qui essaie de reformuler le cinéma. Après une pause, il y a Jean-Michel Frodon qui va nous parler de mon travail comme archive. C'est un hommage à Laurence Angèle. Et on va terminer par un très grand penseur qui vient de Moscou, qui va parler du travail d'Eisenstein et de Dzigvartov en face des régimes totalitaires de Staline et comment les cinéastes arrivent de faire des films dans un contexte répressif. Alors, c'est un programme très chargé. On va essayer de finir un peu plus tôt pour respecter l'entrée des Shabbats et tout le monde peut rentrer à la maison. Moi, je propose qu'on commence par un petit extrait, et après il y a Laurence qui va nous parler. C'est un texte qui vient des livres qui étaient publiés chez Gallimard sur les lettres de ma mère, que Gallimard a publié, et Jeanne Moreau m'a fait le grand plaisir de lire un bon parti de cette correspondance. Et la lettre qui va être lue par Jeanne Moreau, qui fait partie de mon film Lullaby to My Father, c'est un petit extrait. Elle parle des situations d'Allemands, comme elle visite Berlin, et d'inquiétude qu'elle a vis-à-vis de l'évolution de ce pays avant la guerre. Je crois que la lettre était écrite en 1931, comme elle est à Berlin. Et ça va nous mettre bien dans le contexte européen d'aujourd'hui, avec certaines inquiétudes, malgré qu'il ne faut pas faire des parallèles trop simplistes. Alors, on commence avec le petit extrait, et après on va continuer. Merci.
De Berlin, le 22 septembre 1931. Mon cher petit papa, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps, je suis si pessimiste. Je peux même me dire que je me sens brisée et épuisée. Papa, je veux t'écrire comme à un ami, j'espère que tu me comprendras. Si l'on considère la première moitié de cette dernière année, elle s'est bien passée. Il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai une bande d'amis plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde... Nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croassent, l'homme est mauvais. Il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive. Personne ne sait vraiment ce que demain nous réserve. Une révolution, fasciste ou communiste. 6 millions de chômeurs. L'hiver est glacial. La panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail. Je l'ai lue avec attention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail, même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable. Je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome, et de gagner sa vie est le fondement de toute existence. Pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie.
Bonjour à tous. Je voulais d'abord te remercier, Amos, d'avoir bien voulu me permettre de dire quelques mots en ouverture de cette deuxième journée, même si évidemment à côté de tout ce qui a pu être dit jusque-là, tu y as fait référence de très précis, de très pointu, et avant la suite de ce séminaire, il est difficile d'être au bon endroit en quelques mots. Mais si j'ai accepté, c'était évidemment parce que je voyais dans l'échange que tu me permettais d'avoir le signe de la reconnaissance de cette relation qui s'est construite entre toi et la Bibliothèque nationale de France, et à travers cette relation, la conscience que tu as et que toute ton équipe a du rôle en effet que jouent les institutions, et c'est de cela dont je vais parler, préoccupées de conserver et partant de construire notre mémoire. Et par ailleurs, le signe aussi de cette volonté que tu as de mettre en relation et de permettre que résonne l'écho qui peut s'établir entre une mémoire, des mémoires collectives, et un parcours individuel, un héritage familial, pour reprendre l'intitulé de cette session. Alors, et alors, a fortiori, après les mots de ta mère qu'on entend à travers la voix si belle qu'on vient d'entendre, et je conseille à tout le monde de lire ce recueil parce que c'est une entrée dans les archives et dans l'intimité d'un parcours individuel qui est à la fois émouvant et révélateur, il y avait bien sûr une forme de gageur à faire aujourd'hui écho à cette conscience, telle que je l'aperçois depuis que nous nous sommes vus la première fois pour envisager donc l'entrée dans les collections de la Bibliothèque nationale de France d'une partie de tes archives. Et il y avait une forme de gageur à le faire, a fortiori, en quelques minutes, en introduction, comme l'annonce le programme que vous avez eu, et comme le programme est par ailleurs chargé, il ne faut pas prolonger. Comme je voulais rester à ce niveau d'assomption générale que doit avoir un propos introductif face à cette démarche, lorsque le collège m'a demandé un titre pour cette intervention, m'est alors revenue immédiatement la si belle formule, et la si juste formule que vous devez connaître bien sûr, celle d'Alain René, « Toute la mémoire du monde », ce si beau titre qui dit assez exactement, en exprimant le principe même, ce qu'est la Bibliothèque nationale de France, « Toute la mémoire du monde ». Et voilà bien, en effet, là où se situe réellement la Bibliothèque nationale de France, comme toutes ses consœurs, comme toutes les bibliothèques nationales, et peut-être même comme toutes les bibliothèques dans leur dimension principielle. Il y a en effet dans le travail du bibliothécaire cette utopie où se mêle l'ambition prométhéenne, sans limite, toujours reconsidérée, de vouloir tout conserver, de vouloir tout mémoriser. Et par ailleurs, cette mécanique de précision, terriblement pointilliste, presque obsessionnelle, technique, et même maintenant aujourd'hui technologique, qui permet aux bibliothécaires de donner à cette ambition une forme et de la rendre littéralement accessible, grâce à sa structuration. C'est cette ambition qui, bien sûr, nous fait nous enfoncer quotidiennement, peut-être que vous ne le percevez pas, sous une montagne d'actes infimes, invisibles pour le commun des mortels, parfois même incompréhensibles, une montagne au cœur de laquelle se situe cette mission fascinante qui consiste à disséquer la mémoire, à disséquer cette mémoire pour la cataloguer et l'indexer. Et c'est cette même ambition qui aussi nous conduit à l'autre extrême, d'être toujours profondément ouvert à toute sollicitation, à nous hisser au sommet des mondes de la création, à nous montrer intéressés par toute question que soulève la production d'une œuvre et le souhait non seulement d'en assurer la conservation, mais aussi d'en comprendre la gestation. Et donc, en écho aux travaux dont vous bénéficiez au cours de ces deux journées, je crois profondément que réside à cet endroit, ou plus exactement dans cet écho construit entre deux images qui sont a priori opposées, celle de l'esthète aux aguets et celle du soutier méthodique, je crois profondément que réside à ce point d'équilibre instable le rôle spécifique des bibliothèques. Et si vous n'avez jamais travaillé avec des bibliothécaires, je vous y invite, mais il y a toujours ce grand écart absolument fascinant entre l'au-delà ou l'absolu de la création et cette dimension vraiment de soutien du travail du bibliothécaire. Et la BNF joue donc ici sa partition dans l'histoire de l'œuvre d'Amos Gitaille. Vous le savez bien sûr, les bibliothèques nationales fournissent, au-delà de leur conservation, les données, les informations qui permettent d'identifier une œuvre, un lieu, un livre, une personne. Et ce qui est peut-être encore un peu plus fascinant, parce qu'on n'en a pas conscience, alors même que notre monde numérique laisse penser qu'en effet, il n'y a plus qu'un monde, mais les bibliothèques sont à cet endroit-là et travaillent ensemble, à l'échelle internationale, pour normaliser ces outils d'organisation des savoirs. Ces outils qui, en réalité, sont la condition d'un archivage véritablement exploitable, c'est-à-dire qu'il ne serait pas seulement de mettre les choses à l'abri, mais de les rendre utilisables pour les chercheurs, bien sûr, mais qui sont tout aussi bien aujourd'hui utilisées par les opérateurs du net qui ont besoin de cette production de données pour répondre aux sollicitations qui leur sont faites. S'ajoute donc à cette dimension déjà en soi vertigineuse, une conception très large du dépôt légal qui a été inventé en France par François Ier, donc on est dans la maison de cette période, inventée par François Ier en 1537 et qui depuis lors n'a jamais cessé de s'étendre comme une démarche un petit peu inexorable déployée à toutes les formes de production éditoriale, les livres bien sûr, les livres numériques aujourd'hui bien sûr, mais la presse, la photographie au moment de la naissance de la photographie, les disques, les DVD, les jeux vidéo, le web depuis 2006, donc absolument tout. Et sans doute aussi l'œuvre d'Amos Gitai se trouve-t-elle à l'aise chez elle, dans cet endroit où l'on s'intéresse à tout, à toutes les formes de création et à tous les matériaux qui permettent de produire une œuvre. Mais toute cette mécanique ne serait rien, ou ne serait pas tout en tout cas, sans sa rencontre aussi avec la volonté des hommes et des femmes, de ceux, en l'occurrence, qui décident de faire archive de leur création et qui, dans la rencontre avec une institution où s'articule justement cette conscience que j'évoquais en commençant, cette conscience de la nécessité d'archiver, mais aussi la confiance qui se noue dans des relations personnelles, c'est dans cette tension entre la machine et l'homme que se décide le fait de vouloir faire don de ses archives. En tout cas, je suis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en vivre l'expérience, puisque les archives rentrent à la Bibliothèque nationale de France grâce aux dons qui en sont faits par leurs producteurs. Je suis fascinée par ce grand écart productif entre donc, d'une part, la rigueur de cette machine qui est la Bibliothèque nationale, dont la puissance, la portée historique, la profondeur, dont l'efficacité aussi joue sans doute un rôle déterminant dans cette décision qui est prise par un artiste ou un auteur, qui se satisfait évidemment de l'efficacité d'une institution comme la Bibliothèque nationale pour faire ce don de son œuvre. Mais il faut ajouter à cela toujours, à côté donc de cette dimension un peu froide de l'institution, la fragilité et la beauté des relations humaines qui permettent en réalité aux auteurs de franchir le pas. Parce que le don d'archives, au-delà de toutes les questions qui sont abordées depuis hier, qui consistent à savoir comment réaliser ce classement, comment travailler cette matière, il y a avant cela la décision qui est très intime, qui est très personnelle, de faire ce don. Et pour parvenir à cet acte qui n'est vraiment pas simple, il faut qu'il y ait, j'en suis convaincue, cette articulation entre, encore une fois, l'efficacité de la machine et la réalité des relations humaines qui se nouent dans des moments d'explication. Et vraiment, l'histoire de la bibliothèque est tout entière peuplée de ces rencontres. Et parce que les collections de la bibliothèque touchent à toutes les disciplines, à tous les supports, cette alchimie entre archives et héritage personnel fait irruption dans les contrées de la création les plus diverses. Et il s'est bien sûr passé cela lors des premiers rendez-vous que nous avons eus. Je me souviens très bien avoir expliqué à Amos Gitai que la BNF était sans doute le bon endroit pour penser à faire archive de son œuvre, parce qu'il y avait précisément cette capacité à toucher à tous les matériaux, à savoir conserver tous les matériaux physiques, numériques, papier fragile de la presse et œuvres cinématographiques. Mais il y a eu les rencontres avec les conservateurs qui se sont occupés avec Amos Gitai de travailler à ce projet, et sans cette rencontre, sans ces discussions, rien sans doute ne se serait fait. Et puis s'ajoute, dans le moment particulier à Amos Gitai, du point de vue de la Bibliothèque nationale, dont Joël Hudvol, en effet, vous a révélé hier la dimension aussi aventureuse dans ses aspects techniques, qui confère à l'entrée des archives d'Amos Gitai à la Bibliothèque une dimension d'expérimentation, mais la Bibliothèque aime beaucoup expérimenter. Il y avait au surplus cela de particulier que dans l'œuvre d'Amos Gitai, nous pouvions retrouver une forme de mise en abîme, non seulement de la bibliothèque, mais du fait pour Amos Gitai de faire don de ses archives. Mise en abîme donc de l'œuvre d'Amos Gitai et de la bibliothèque elle-même, à cet endroit où réside le souci des bibliothèques de pouvoir révéler non seulement les œuvres, mais la généalogie des œuvres, en en conservant donc non seulement la forme définitive, comme on peut le faire dans un musée, mais toutes les étapes de la création et toutes les sources qui ont permis d'arriver à cette conception, et d'être aussi le lieu possible de la démultiplication en dehors de ce qui a été constitué comme archive, de la mise au carré d'une même œuvre lorsqu'elle en inspire d'autres. La BNF se situe donc à cet endroit, et en accueillant une œuvre qui se fonde sur les archives, je pense qu'il s'est joué aussi cette alchimie particulière de se retrouver dans l'œuvre d'Amos Gitaï. Et en tout cas, je crois que cette œuvre-là a à voir justement avec cette valeur donnée à l'archive comme source de l'œuvre, et à l'œuvre comme elle-même archive et matière de l'œuvre à venir. Ce séminaire permet donc de soulever à ce sujet beaucoup de questions essentielles, et notamment ces questions qui apparaissent dans les intitulés des interventions. Pourquoi envisager cette préservation, et comment assurer la préservation et l'archivage d'une œuvre cinématographique qui repose elle-même sur un travail archivistique qui fait feu de tout bois, se décomposant elle-même en une multitude d'œuvres qui travaillent en profondeur une forme esthétique de rompon, d'une œuvre à l'autre, d'une archive à l'autre, faisant d'une œuvre l'archive et la matière de la suivante. Donc la mise en abîme toujours et la démultiplication toujours. Alors à ces questions, le bibliothécaire répond « pourquoi pas ?» et dit « travaillons ensemble au comment ?» Alors en disant cela, je crois expliquer aussi la proposition qui a été faite lorsque Amos Gitaï est venu nous voir assez vite, de se concentrer sur une seule œuvre. Parce que Amos Gitaï, faisant les choses en les faisant, est venu avec cette idée fortement inscrite une volonté forte de donner ses archives, de transformer son œuvre en archive, mais sans avoir défini du tout le périmètre de ce don. Donc c'était une idée, ce n'était pas un projet défini. Alors là, on a aussi toutes les configurations avec les auteurs ou les artistes qui viennent nous voir, d'artistes qui ont déjà vraiment constitué leur œuvre entièrement comme une archive constituée, de ceux qui hésitent encore beaucoup, ou de ceux comme Amos Gitaï qui ne savent pas exactement comment et que donner. La seule conviction qu'avait Amos, c'est qu'il ne fallait pas donner tout à une seule institution pour éviter, comme là aussi une métonymie de son œuvre, de s'enfermer dans une seule identité. Donc cette idée d'être à Paris, aux États-Unis, en Israël. Et donc les premières discussions ont consisté pas seulement à savoir comment, mais à savoir quoi aussi. Et la proposition qui a été faite assez vite par la bibliothèque a été de dire une seule œuvre et Rabin. Pour sa valeur propre, bien sûr, pour sa portée internationale aussi, comme un écho à cette volonté de ne pas s'enfermer dans une identité et donc à travailler sur une œuvre qui a une dimension vraiment internationale par son contenu même, par ce qu'elle raconte, et puis par cette dimension, encore une fois, de rebond très forte de définition d'une œuvre qui se démultiplie. Et comme je le disais tout à l'heure, la BNF se retrouve donc profondément dans l'accueil qui est fait à l'œuvre d'Amos Gitaï et à Rabin, préoccupé que nous étions de comprendre et de donner à comprendre. Certes, de ne pas renoncer à la magie que produit toujours l'œuvre, au secret que doit garder l'œuvre, à ce secret indécelable qui nourrit notre goût et le goût de tout un chacun pour l'art, mais d'admettre aussi modestement que chaque parcelle de mémoire vaut pour ce qu'elle permet d'analyser autant que pour ce qu'elle permet d'imaginer, ici et maintenant, mais dans le siècle des siècles et demain à Jérusalem. Permettez-moi de vous dire, cher Amos, en écho au titre que vous avez choisi avec tous les pluriels que vous avez mis pour cette session, associés aux mémoires, aux archives, aux parcours, aux représentations aussi, qui conduisent de l'intimité de la création à la confrontation avec le public, permettez-moi de vous dire que la BNF, avec la bibliothèque de Sanford, avec la Bibliothèque nationale d'Israël, est très heureuse de pouvoir, sans trahir ce qui reste un héritage familial, en faire un héritage universel et l'inscrire dans la mémoire du monde. Merci beaucoup.
Merci, chère Laurence. Je suis très ému par cet geste. De toute façon, depuis toujours, je décidais que C'est-à-dire, mon travail, il est en principe aidé par des pays. Israël est mon lieu de naissance qui m'a inspiré, des fois dérangé, mais c'est la source, la référence de mon travail. Et la France qui l'a rendu possible. Et parce que sans les moyens que la France a attribués à différents films que j'ai faits, ce travail n'existait pas. Et je trouvais que c'est juste qu'il y a une grande majorité de mon travail qui existe ici. Et également, comme hier, Marie-Pierre Ulloa l'a décrit, il y a une archive conséquente à Stanford et aussi pour un parti à Jérusalem, surtout sur le premier film comme Berlin Jérusalem, qui a inspiré des biographies de Elsa Lasker Schüller, une poétesse expressionniste, née à Wuppertal et grandie à Berlin, qui était obligée de fuir et d'arriver à Jérusalem, qui a fait de très belles poèmes, qui s'appelle, la collection s'appelle Hebräische Balladen, qui était écrit dans les langues allemandes, mais qui fait rêver de cette ville mythique. Et à la fin de sa vie, ce livre était brûlé par les nazis. À la fin de sa vie, elle arrive à Jérusalem. Alors cette collection-là, il va être à Jérusalem parce que, tout simplement parce que tout l'archive de lettres même et de correspondances d'Elsa Lasker Schiller avec Einstein, avec Franz Marc, avec le Blaue Reiter, avec Karl Kraus, etc., il est à Jérusalem. Alors je trouvais que c'est cohérent. J'ai décidé de donner tout l'archive, plus que 30 000 items, à la Bibliothèque nationale ici, en France, parce que dans les circonstances politiques d'Israël aujourd'hui, je trouve que c'est plus prudent que ce sera un drap neutre comme la France, avec les grandes talents de Col de Chartres associés à la BNF. Et on est très très content des démarches que c'est en train de suivre. Et en plus, il faut vous informer que l'année prochaine, la Bibliothèque nationale va faire un expo, plus apparemment un livre qui va être édité par Gallimard sur l'archive autour de Yitzhak Rabin et l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et de toute façon, parce qu'hier j'étais assez muette, alors tout m'a lancé effectivement dans les questions pourquoi j'ai distribué mes archives, parce que je trouve qu'on est dans les phases, c'est-à-dire l'archivage traditionnel a proposé toujours d'assembler tout l'archive et de mettre dans un seul endroit. Mais je trouve que la technologie moderne, surtout l'Internet, les archives numériques, elle nous laisse créer une sorte de network, une sorte de système de communication entre des institutions variées. Et mes archives, comme Laurence l'a dit, il est à Jérusalem, à Paris et à Stanford. Et aussi, il y a certaines choses qui ont été achetées par le Musée de Modern Art de New York, il y a des centres Pompidou, il y a des différentes institutions. Et on peut permettre de ne pas centraliser tout l'œuvre dans un seul endroit. Et d'ailleurs, je fais référence dans une interview que j'ai faite dans un de mes premiers films avec Saul Bellow, qu'il m'a dit que c'est une vieille stratégie juive de ne pas mettre tout dans le même endroit, comme ça, s'il y a un endroit qui est problématique, il reste quelque chose. Alors, je suis le conseil de Saul Bellow, son conseil. Et je trouve qu'effectivement, cette partnership entre le BNF et le Stanford, éventuellement avec Jérusalem, produit aussi des échanges de knowledge, de moyens techniques, parce que comme Stanford, université avec beaucoup de moyens liés au Silicon Valley et de tous les plus update technologies vis-à-vis des archives numériques, elle est très très bien équipée, Stanford. Et le BNF, quand même, c'est un endroit de magnifique centre intellectuel, aussi de chercheurs, d'analystes, d'historiens. Alors, il y a un aspect presque complémentaire qui peut être assemblé de façon qui connecte les différents éléments de la planète. Bonjour Jean-Michel. Alors, moi je trouvais que c'est, depuis le départ, cette idée de choisir quelques institutions de bon niveau dans différents endroits, il sert dans quelque façon la diffusion de l'œuvre. Et aussi, je suis conscient que comme j'ai fait quand même un travail assez conséquent, qu'il compte, a priori, les gens ont dit qu'il compte presque 90 films, courts-métrages, fictions, documentaires, aussi de pièces de théâtre, d'expos, de livres. Et on ne peut pas mettre toute cette lourdeur sur une seule institution. Et c'est bien de partager, de travailler ensemble, qui est mon principe, même quand je fais un film. Alors, hier, j'ai fait un peu référence. Effectivement, il y a Laurent Truchot qui est là, qui on travaille depuis 30 ans, qu'il faut lui rendre hommage parce que. Il est toujours là, il est toujours intéressé par les choses qu'on est en train de faire. Et il y a avec lui un groupe de gens que j'aime bien continuer à travailler. Ça devient mon, comme je dis souvent, mon kibbutz privé, et dans lequel il y a des gens de différents pays, de différentes cultures. C'est pas une monoculture, mais c'est de façon dans laquelle l'œuvre lui-même devient le lieu de raconte. C'est-à-dire, c'est pas une. Le tournage dans mes plateaux, si jamais vous visitez un tournage, c'est jamais une seule langue qui parle. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'israélien, le palestinien, l'hébreu, l'arabe, le russe, l'italien, le français, l'anglais, le yiddish, des fois, le ladino. C'est-à-dire que le plateau lui-même, mais ça existe aussi dans les films après. Le plateau lui-même devient une sorte de lieu de raconte. Et je trouve que c'est une façon dans laquelle le cinéma ou le travail artistique peut devenir, dans son rôle traditionnel, d'être, comme je dis tout à l'heure à Laurence, une sorte de guérisseur, une sorte de healing. C'est-à-dire, on a parlé dans les différentes conférences que j'ai fait ici. Qu'effectivement, l'art, dans son origine, elle avait cette fonction dans les sociétés qui souffrent. L'art, l'artiste, le théâtre, qui était dans les sociétés paganes, mais il était aussi à l'entrée de l'église, avant qu'il rentre à l'intérieur des bâtiments, était une façon dans laquelle le créateur essayait de guérir la souffrance de la société. Et je crois que c'est la source vraiment d'action civique qu'il est nécessaire. L'art, ce n'est pas un petit joyau esthétique vide de signification, mais il faut qu'il engage avec le réel. Engage, je répète, pas d'une façon didactique ni doctrinaire, mais engage d'une façon ouverte pour accueillir des idées, pour provoquer des réflexions provoquées, pas dans le sens de provocation gratuite, mais provoquées dans le sens d'amener les gens à réfléchir. Et c'est vraiment par différents moyens, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, l'architecture, etc., et des démarches nécessaires, surtout qu'il y a une souffrance, et qu'il y a des inquiétudes sociales. Et si l'artiste, il va lâcher ce rôle, après, on va voir aussi des phénomènes d'élections des dirigeants, des tsunamis, des despotes. Il faut que l'art engage, il faut qu'elle porte un point de vue. Alors, moi, j'ai fait cette démarche vis-à-vis mes chers compatriotes. Ce n'est pas amener seulement des roses et des honneurs, mais il faut faire. Il ne faut pas être lâche. Il faut être déterminé et faire cette démarche. C'est une sorte d'hommage qu'on fait à notre propre culture, comme on fait un travail critique. Et je dis souvent, la société forte, ou la culture forte, n'a pas besoin de relations publiques vides. Ils ont besoin d'artistes qui engagent avec le réel. Et comme le climat actuel en Israël, par exemple, mais ce n'est pas le seul pays, il est hostile à cette démarche. L'homme et la femme politique croient que l'art, la fonction, c'est strictement un travail décoratif. Il faut que l'artiste rebelle contre cette proposition. Sinon, on perd la raison d'être et pourquoi on fait ce travail. Alors, c'est-à-dire, c'est des fois, c'est bien rigolo d'aller au tapis rouge des grands festivals, mais il faut être très content de mettre un t-shirt et aller faire un boulot nécessaire pour amener la réflexion et pour dialoguer avec les gens et pour montrer aussi les compréhensions des souffrances de l'autre, pas seulement de nous, et nous, et nous, et notre histoire, etc. Dans ce sens aussi, le travail qu'on a fait hier soir, on avait les très belles interventions de Lionel Richard et d'Anne Eitan sur les questions d'archives de mon père, Munio Weintraub. Et ceci, ce n'est pas strictement un acte sentimental vis-à-vis de cet homme qui était architecte de Bauhaus, mais c'est aussi un travail de qu'est-ce qui est intéressant dans les Bauhaus pour le futur, pour le jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est intéressant par cette démarche d'architecte qui comprend que l'architecture, c'est un des paramètres principaux de l'humanité, c'est-à-dire Melinovsky, le grand sociologue soviétique, il nous raconte qu'effectivement, pour que l'humanité continue, il faut le shelter, c'est-à-dire l'architecture, l'abri, il faut les vêtements, il faut la nourriture, ces trois choses, simplement. Alors, même avant la culture. Alors, l'architecture, aujourd'hui, elle a pris une sorte de vol qui sépare de cet aspect de base d'architecture qui est simple, comment l'architecture peut créer un endroit agréable, esthétiquement acceptable, ou quand même, pas oublier, son rôle principal, c'est de créer un espace vivable aux gens. Et alors, le travail de Munio, mais pas seulement de Munio, bien sûr, des gens de cette génération, était consacré à ça. C'est-à-dire, il y avait même, je parlais dans des conférences, de 1920, à Stuttgart, le concours qui assemblait les plus grands architectes d'époque, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius et des autres. Et le challenge était de dessiner un appartement de 70 mètres carrés, tout simplement. Et pas les palais, pas l'aéroport, pas les musées, etc. C'est-à-dire, il faut que le grand architecte talente revienne à cet paramètre de base d'architecture. Il nous propose des foyers agréables. Et pour revenir à la question d'archives, c'est-à-dire l'idée de travailler aussi sur l'archive de Munio, c'est-à-dire c'est aussi à travers de lui, regarder comment il confronte cette question, comment on fait une maison de douche d'un kibbutz, comment il fait une salle à manger, qu'est-ce que les démarches. Et l'archive de Munio, il existe à MoMA et des autres endroits, mais aussi pour radier cette sorte de voir un impact de cette sorte de démarche d'architecte. Et également les lettres de Fratia, et ma mère, qui sont une sorte de réflexion sur l'évolution d'Israël, mais aussi d'autres endroits. Alors, Florence, elle m'a fait le plaisir de me donner un texte qui expliquait que le Collège de France, créé par François Ier en 1530, a mis, et comme j'ai mentionné hier, dans les plaques que vous trouvez à l'entrée du Collège de France, écrit que François Ier et choisi de nommer 6 experts, deux en grec, un en mathématiques et 3 en hébreu, qui est vraiment, en rentrant dans cette institution glorieuse, j'ai même posé la question, est-ce que je dois faire toute la conférence en hébreu pour être fidèle à François Ier? Mais j'ai décidé finalement de parler dans le dialecte local de ce pays, alors, pour faciliter les communications. Et d'ailleurs, j'ai appris que François Ier, Laurence, c'est lui qui a installé le dépôt légal déjà en 1530, c'est pas mal. Oui. Et on va parler, peut-être je vais aussi vous donner quelque chose de Munio pour les bibliothèques nationales, surtout, je trouve qu'il y a un projet très intéressant, c'est la démarche qu'il a faite dans les premières croquis de Yad Vashem, qui est le mémorial de la Shoah, comme il a été appelé pour dessiner le site de Yad Vashem d'une année assez troublante, en 1942 déjà. Et là, Rivka m'a fait les grandes découvertes, qu'il a trouvé 3000 lettres qu'il a fait dans ce projet. Les Yad Vashem était créé en 1946, même avant l'État d'Israël. Et dans cette phase-là, Mounio a décidé de ne pas faire un monument, mais strictement dessiner l'archive. Alors on parle beaucoup d'archives ici. Et pour ne pas aller trop loin, parce qu'on est toujours en retard dans cette journée très chargée, et je vais dire quelques mots avant le film qu'on va voir maintenant, qu'il est lui-même, par, dans quelque façon, une sorte d'archive, parce que Jean-Michel Frodon, il a écrit que j'ai quelques fantômes qui répètent dans mon travail, c'est assez exact. C'est-à-dire, j'aime bien les textes de Flavius Joseph, que vous avez vu hier l'extrait avec Jeanne Moreau dans les carrières de Boulbon, le spectacle. Se répète dans plusieurs endroits, même là, la semaine dernière, aux États-Unis, dans le festival de théâtre, c'est répété. Et j'aime bien, parce que c'est Flavius Joseph qui décrit, il y a 2000 ans, la destruction de Jérusalem par l'Empire romain. Mais avec ce texte, il pose la question sur les ultra-fanatiques, ultra-nationalistes qui sont, comme l'habitude, en train de détruire leur pays. Et je trouve que l'écho de cette démarche existe aujourd'hui aussi. Et ce texte, il est très très fort, et peut-être un jour, dans le futur, on va refaire une présentation théâtrale. Anna Arabia, le film qu'on va présenter maintenant, il fait référence de trilogie de documentaires que j'ai fait, qui s'appelle Wadi. C'est un de mes premiers films, avec House, qu'on a parlé hier. House, que j'ai fait, l'année prochaine, on va signer les 40 ans. J'ai fait en 1980, qui est considéré comme mon premier film complet, après quelques courts-métrages. Et comme House, il montre le conflit et les strates de ce conflit qui existe dans une maison à Jérusalem qui appartenait jusqu'en 1948 aux médecins palestiniens qui étaient obligés de quitter à la guerre de 1948. Mais après, le gouvernement israélien installait des juifs de Colombichard, de famille Touboul, d'Algérie. Et après, encore une autre guerre en 1967, la guerre des six jours, la maison a été prise par un économiste israélien, et lui décide de convertir cette maison d'un étage à villa de trois étages. Mais pour faire la villa, il amène des ouvriers palestiniens des camps de réfugiés et les pierres des montagnes de Hébron. Et cet microcosme de ce film documentaire, dans lequel il y a une sorte de juxtaposition de séries de biographies, montre d'une façon assez lucide et calme comment le conflit est construit et comment cette classe sociale, c'est-à-dire les grands professeurs d'économie, les juifs d'Algérie, des Palestiniens, comment la société est composite. Le film était censuré par la télé israélienne et il n'était pas diffusé. Et c'est peut-être, j'ai dit dans les différentes conférences que j'ai faites, que peut-être ça, c'est un des actes de naissance de comment j'ai devenu cinéaste, parce qu'il faut aussi lutter pour l'existence de ton travail, qui n'est pas toujours facile. Que j'avais une alternative de rester architecte, mais comme j'ai décidé de défendre le film, j'ai devenu cinéaste aussi, qui m'a amené aussi beaucoup de problèmes, mais c'est pas grave, il faut rester calme. Alors ça, c'est House, et la même année, en 1980, j'ai commencé à travailler sur Wadi. Wadi, c'est presque l'opposé. Wadi, c'est une feuille dans le Mont Carmel. Hier, on a vu André Wilms, qui a lu le texte de Carmel. Alors, c'est un faille de mon ville natale, Haïfa, c'est un vallée, c'est un wadi. Wadi, c'est le mot arabe de vallée. dans laquelle cette vallée qui est un peu abandonnée, il a accueilli des gens d'origine différente, des marginaux, des femmes juives qui mariaient avec des hommes palestiniens, des rescapés de Shoah qui vivent dans la nature avec leurs chevaux qui arrivaient de Roumanie. Et toute une série de figures assez uniques, assez particulières, qui coexistaient dans cette vallée. Et c'est une sorte de, presque un contrepoids de Jérusalem, qui est une ville toujours très forte, très spectaculaire. C'est un kilomètre carré qui est presque la fierté qu'il a indoctriné la planète, avec les trois religions monothéistes. C'est une ville très très forte, qui radiait des idées très fortes. Et Haïfa, c'est presque l'opposé, c'est une ville qui considère, si une ville peut considérer, qu'il y a un modus vivendi, qu'on peut vivre à côté, que la domination, ce n'est pas obligatoire. Et c'est dans le DNA de cette ville, parce qu'elle était gérée déjà dans l'époque des mandats britanniques par trois maires, un maire anglais, un maire arabe et un maire juif. Et toutes les décisions étaient faites d'une façon consensuelle. Alors, cette issue, elle existe toujours. Et même maintenant, Haïfa, c'est la première ville, une des trois grandes villes israéliennes, qui a élu une femme comme être maire de cette ville. Elle a choisi un député arabe comme son député. Et notre premier ministre actuel, qui ne veut pas quitter la scène, comme vous savez, il était très fâché. Mais le maire actuel a dit c'est comme ça. Alors, le film que vous voyez là, en Arabie, c'est un film de fiction qui, avec Marie-Josée Sanselme, on a accueilli beaucoup de dialogues qui existaient déjà dans les Wadi, les films d'origine, mais on a décidé de retransposer sur un film de fiction. Le film est tourné, comme j'ai dit tout à l'heure, par un plan séquence. Pourquoi un plan séquence? J'étais demandé, comme le film était présenté au Festival de Venise, alors pourquoi les gens m'ont demandé pourquoi tu as fait un plan séquence. Alors j'ai dit, écoute, moi je n'ai pas envie que le rapport entre les Juifs et les Arabes va être coupé. Alors si je traduis cette phrase au syntaxe du cinéma, alors je ne coupe pas. Voilà, un plan séquence. Alors, on va regarder en arabe, on va être là tout à l'heure. Merci.